Et quelle joie de pouvoir chanter les louanges de Dieu, n'est-ce pas? Quelle grâce il nous a manifestée, comme nous en avons parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir de nouveau votre Bible dans le livre des psaumes. Mais cette fois-ci, tout à la fin, le psaume 150, parce que... Maintenant que je vous le dis, peut-être que vous comprenez à travers les différents chants et même la lecture biblique de tout à l'heure, le culte aujourd'hui vraiment axé autour de la louange. Et dans le psaume 150, les dernières paroles de ce livre, ce dernier psaume, les psalmistes, parce qu'il y en avait plusieurs, David, les fils d'Azaph, Moïse même, Salomon, certains psaumes dont l'auteur est inconnu, avaient beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, des joies, des peines, des difficultés, la louange. Et cette idée de louange revient très, très souvent. Et ici, tout à la fin, de nouveau, nous avons cela. Permettez-moi de lire ces 6 versets, après quoi nous prierons pour mettre ces moments entre les mains de Dieu. Le psaume 150, versets 1 à 6. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Prions. Oui, Seigneur, encore une fois, nous venons devant toi et nous demandons ton aide pour comprendre ta parole. Nous demandons ton aide aussi pour la mettre en pratique. Et Seigneur, que tu parles à notre cœur, que nous soyons réceptifs et non pas résistants. Que cette parole fasse son œuvre dans notre cœur. Que cette bonne œuvre que tu as commencée en nous et que tu vas parfaire jusqu'à ton retour continue. Et déjà, nous te disons merci. Et nous te louons pour ce que tu feras dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors nous lisons ces paroles et on sent un peu avec le psalmiste comme si il est sur le sommet, comme si rien dans le monde ne pouvait le déstabiliser. Vous savez, parfois il y a des moments dans la vie où tout semble aller bien, n'est-ce pas? Je n'étais pas ici en France en 98, mais d'après ce que je comprends et d'après ce qu'on me dit, lorsque l'équipe de France de football a remporté la Coupe du Monde, aussi avec le fait que ça s'est passé autour du 14 juillet, il y a eu plusieurs jours à la fois de fêtes, de réjouissances. Les gens, ils étaient dans la rue et tout le monde était content. Sauf ceux qui ont perdu, mais les Français étaient contents. Et pour rendre les Français contents, c'est pas peu de choses. Okay? Parce que les Français, parfois, sont assez grognons. Bon, les Français étaient dans la joie. Et quelque part, on peut dire, les Français louaient l'équipe de France de football. Parce que c'est eux qui avaient gagné, mais on se dit, voilà, on est avec eux, ils nous représentent et tout. Vous savez, dans les matchs sportifs, c'est nous avons gagné, mais quand ils perdent, c'est eux qui ont perdu. Hein. Vous avez constaté cette différence? Bon, comme j'ai dit, je n'étais pas ici. Par contre, j'ai vécu une chose similaire en 2004. Alors, je venais d'arriver en France, ça faisait peut-être 4 mois environ. Et l'équipe de baseball de Boston a remporté le titre de champion de baseball aux États-Unis pour la première fois depuis 86 ans. Et je peux vous dire que même si j'étais ici, je me joignais complètement à tous les gens de Boston et tous les gens de Massachusetts, de la Nouvelle-Angleterre, dans la réjouissance que enfin notre équipe a gagné. Il nous avait fait le coup tant de fois en allant soit en demi-finale, même en finale. D'ailleurs, en 86, l'année où je suis né, ils sont allés en finale et puis ils ont perdu le dernier match sur une erreur assez bête. Enfin, voilà. Et dans la joie, quand l'équipe de Boston a gagné, je peux vous dire que j'étais dans la joie. Et on se dit, oui, ensemble, surtout quand on est avec d'autres, on peut être dans la joie, on peut louer, on peut s'exprimer, on peut exalter. Et on fait ça pour des choses aussi terrestres, aussi éphémères que des matchs sportifs. Alors, bon, il y a des gens qui aiment bien le sport. Et notre frère Patrick en est un exemple. Moi aussi, j'aime bien le sport. Je m'intéresse un peu au foot. J'aime bien le baseball, le foot américain. Mais ce sont des choses terre à terre, des choses qui vont passer. Les membres de l'équipe de France de 98, aucun d'entre eux ne joue encore aujourd'hui. Sauf quelques grands noms qui pourraient citer tous les noms de cette équipe. L'équipe de Boston, même de 2004, ça remonte seulement à 12 ans. La plupart des gens, je suis certain, ne pourraient pas citer tous les noms, peut-être juste quelques-uns. Et si nous avons autant de joie, si nous avons autant de louanges pour quelque chose qui ne va durer que quelques instants, et après passer, vous comprenez le sens de ma pensée, de ma question, combien plus si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons louer le grand créateur de tout cet univers. Et c'est ce que ce psaume nous pousse à faire. Revenons à ce psaume, où dès le départ, bien sûr, ce sont les derniers mots, mais aussi les premiers mots de ce psaume, louer l'Éternel. Là, au début de verset 1 et à la fin de verset 6, louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Et ceci me frappe parce que cette expression, cet appel à la louange revient très très souvent dans les psaumes. Et au bout d'un moment, si vous lisez les psaumes, vous aurez peut-être cette impression, comme de temps en temps moi je l'ai, ok c'est bon, j'ai compris, ok c'est assez, je sais, il faut louer le Seigneur, c'est pas la peine de le répéter, ça y est, je l'ai acquis, ça y est, je le fais. Et pourtant, cet appel à la louange revient très, très souvent. Et je suis convaincu que la raison principale pour cela, c'est parce que nous sommes un peuple oublieux. C'est parce que nous avons tendance à regarder les circonstances qui sont autour de nous. Et ces circonstances nous empêchent de penser à louer Dieu. Parce que si nous étions constants dans notre louange envers Dieu, Dieu n'aurait pas besoin de nous sans cesse le répéter. Et ici, ce psaume qui en fait englobe tout le reste des chapitres de ce livre, nous pousse à la louange de Dieu. Et la question qu'il faut se poser ce matin, c'est: suis-je en train de louer Dieu maintenant? Suis-je en train de louer Dieu en cet instant? Et puis la question demain, quand on sera au travail, quand on sera sur la route et que quelqu'un ne met pas son clignotant et puis vient juste devant nous, est-ce que je vais louer Dieu? Ou lorsque un des collègues de travail fait ou dit quelque chose qui nous semble injustifié, est-ce que je vais louer Dieu? Lorsque dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, lorsque le gouvernement prendra des décisions de plus en plus désastreuses et vont limiter de plus en plus notre témoignage, va s'attaquer de plus en plus aux chrétiens, est-ce que à ce moment-là, nous, le peuple de Dieu, si nous sommes sauvés, est-ce que nous allons louer Dieu? Parce que ce psaume, il est clair, bien sûr, pour le peuple d'Israël, mais ceci nous concerne tous, parce que cet appel à la louange, on la trouve également dans le Nouveau Testament. C'est pour nous aujourd'hui. Louer l'Éternel. Le dimanche 23 octobre 2016, c'est le cas. Demain, Ce sera le cas. Pendant toute cette semaine qui vient, ça doit être notre pensée de louer l'Éternel. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que nous pouvons faire cela? Et en fait, nous regardons le verset 1 et nous voyons louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire. Alors, il est assez intéressant, nous pouvons prendre cela de deux façons différentes. Alors, louer Dieu qui est dans son sanctuaire, c'est-à-dire dans la sphère céleste, Dieu est là. Vous savez, il y a ce cosmonaute russe qui est allé dans l'espace. Il a dit, je suis allé dans l'espace, je n'ai pas vu Dieu. Complètement ridicule. Et même certains disent, en fait, il ne l'a pas dit. Mais toujours est-il, Dieu, qu'on le voit ou pas, nos yeux ne le voient pas physiquement. Nous avons les yeux de la foi, bien sûr. Mais nous ne voyons pas Dieu. Et pourtant, Dieu est sur son trône céleste. Dieu est là. Et justement, il faut louer Dieu parce qu'il est là. Il n'est pas distant quelque part, insouciant avec ce qui se passe sur la terre. Non, il est dans le ciel avec les regards sur la terre. Et on va parler un peu plus de cela dans quelques instants. Mais Dieu est là, sur son trône. Il est dans son sanctuaire, le sphère céleste. Et il faut louer Dieu pour cela. Parce qu'il est ce grand Dieu, il est le Dieu unique. Mais aussi, louer Dieu dans son sanctuaire, ça, on peut aussi comprendre cela comme louant Dieu lorsqu'on vient dans sa présence. On loue Dieu quand on vient dans sa présence. Oui, entre les quatre murs de ce bâtiment qu'on appelle parfois église, il faut le faire là. C'est pour cela que le dimanche matin, on consacre du temps à la louange de Dieu, mais également à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu par la prière. Notre prière doit être accompagnée des louanges envers Dieu. Alors, par moment, nous n'avons pas le temps de le faire. Et je pense surtout à cet épisode avec Pierre. Vous savez, dans les évangiles, Jésus, il va calmer, calmer la tempête, mais il arrive vers ses disciples en marchant sur l'eau. Ses disciples sont là, dans le bateau. Et Pierre demande à Jésus de l'appeler sur l'eau. Et Pierre sort de la barque et il marche sur l'eau. Je ne sais pas si ça nous surprend autant que ça devrait. On l'a tellement entendu, pour nous, ça semble comme chose un peu banale. Mais Pierre a littéralement marché sur l'eau. C'est quand même phénoménal. Et puis, à un moment donné, comme vous le savez, il regarde la mer, le vent, et puis il commence à s'enfoncer. Et à ce moment-là, il tend la main vers Jésus et il appelle à l'aide. Est-ce que Pierre avait le temps de donner des louanges à ce moment-là? J'en doute fort. Sa seule pensée, c'était « Jésus, sauve-moi !» Il ne pensait qu'à ça. Et pourtant, quelque part, il y avait la louange là-dedans parce qu'il savait que Jésus pouvait le sauver. Il reconnaissait la puissance de Jésus, même s'il ne comprenait pas tout. Il comprenait que Jésus était puissant pour le sauver. Donc, il y avait quand même cet aspect de la louange. Mais ce n'est pas comme si il disait, « Jésus, je te loue, tu es le Créateur, tu contrôles toutes choses, alors sauve-moi. » Non, sauve-moi. C'est tout ce qui l'intéressait. Et pourtant, il y avait cet aspect de louange. Du coup, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, que ce soit en venant ce que nous appelons sa maison, lorsque nous venons dans ces rencontres que nous avons, ces moments collectifs, ou que ce soit chez nous, lorsque nous sommes dans la prière, pour les différents besoins que nous avons, pour les différents besoins que ont d'autres éventuellement, nous devons avoir cette pensée de louange à notre esprit. Et malheureusement, et je m'y reconnais également, nous avons tendance, lorsque nous prions, de nous focaliser sur nos besoins, de penser que la prière, en fait, c'est plus une demande à Dieu, alors que notre prière, lorsque nous nous adressons à Dieu, devrait être principalement de la louange. Et bien sûr, il y a cet aspect où nous demandons à Dieu d'agir, d'intervenir, de pourvoir selon sa parole. Mais dans notre vie, si nous voulons concrètement louer Dieu, dans notre prière, ça doit s'entendre. Et puis, le verset 1 continue. « Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Alors ici aussi, deux aspects de ceci. Nous parlons de la nature. Le psaume 19 va nous parler de toute la nature qui éclate en louange envers Dieu. Romains chapitre 1 également va dire que toute la nature parle de Dieu, alors les hommes sont inexcusables. Les hommes sont inexcusables de refuser de croire qu'il y a un Dieu. Et ici, le psalmiste dit « Toute la nature est en train de louer Dieu. Tous les cieux, les beaux couchers du soleil, même des tempêtes avec des éclairs, les ouragans, tout ce qu'on voit parle de la puissance de Dieu. » Mais également, comme nous sommes dans la sphère céleste, dans ce verset, également, nous savons qu'au ciel, et le livre de l'Apocalypse nous le confirme, les anges qui sont au ciel louent Dieu. Lorsque Jean, en Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, il va voir Dieu sur son trône, il va voir tous ces êtres autour du trône, qu'est-ce que tout ce qui est autour du trône de Dieu fait ? Il loue Dieu. Et si eux, ils le font, combien plus, de nouveau, nous devons également. Et cette louange, bien sûr, est envers Dieu. Et c'est là où nous entrons dans le verset 2. Et nous voyons, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Et c'est ce verset-là que nous avons vraiment tendance à oublier, parce que quand tout va bien, on peut dire, oui, gloire à Dieu, il a répondu aux prières, gloire à Dieu, il est intervenu, gloire à Dieu, il a pourvu, on a vu comment il a agi dans telle ou telle circonstance, et là, louange à Dieu, ça ne pouvait qu'être lui. Et c'est là où nous avons tendance à penser à ce verset, pour ses hauts faits, l'immensité de sa grandeur, il fait tout. Lorsque, à nos yeux, ça va mal, lorsqu'il y a des épreuves, lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous faisons face à des situations qui sont soit complexes ou très difficiles, c'est là où nous remettons en question cette idée de louange. Et on se dit, mais là, comment est-ce possible de louer Dieu? Là, telle ou telle situation, je ne peux pas. Dans n'importe quelle autre situation, je pourrais louer Dieu, mais là, ce n'est pas possible. Je pense à une famille que je connais aux États-Unis. Le mari a eu un AVC il y a quelques années qui a bien dégradé sa santé. La femme, elle a déjà eu un cancer. Elle était en rémission et maintenant, ce cancer revient. Et cette famille, malgré cela, malgré tous les traitements par lesquels tous les deux ont dû passer, c'est un couple un peu âgé, ils louent Dieu. Ils disent, nous sommes confiants en Dieu, malgré ceci, malgré ce qui semble pour d'autres comme une mauvaise nouvelle, le retour de ce cancer, toutes les conséquences de l'AVC et tout, ce couple, ainsi que bien, bien d'autres à travers le monde, des couples chrétiens, louent Dieu, disent, nous sommes confiants en Dieu. Et je veux aussi prendre en exemple l'apôtre Paul. Allez avec moi dans le livre des Actes, chapitre 16. Le livre des Actes, chapitre 16, dans un passage que nous connaissons bien, une histoire que nous avons souvent entendue, je suis convaincu. Pour donner le contexte, Paul et Silas sont arrivés dans la ville de Philippe. Et ici, il témoigne à des femmes. Une certaine femme nommée Lydie se convertit, avec d'autres bien sûr. Une petite église démarre. Et au verset 16, Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devenant procurée un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Là, une chose merveilleuse. Cette fille, possédée et délivrée. Je crois que tous seraient d'accord de dire, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu, par la puissance de Dieu, cette fille délivrée. Or, verset 19, nous voyons la réaction de ceux qui ne pensaient qu'à l'argent. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. » Alors c'était faux, c'était un mensonge, injuste. « Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Encore une fois, mensonge, c'est faux. Ce n'est pas du tout ce que Paul et Silas annonçaient. Verset 22, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et on se dit, tout est faux. Paul et Silas font une bonne œuvre. Délivre cette fille, annonce le salut, annonce la délivrance en Jésus-Christ. Et après, on raconte des mensonges à leur sujet. On est injuste envers eux. Et si les paroles n'étaient pas suffisantes, on les batte. Ils sont physiquement battus, meurtris. Et en plus de cela, ils sont mis en prison dans l'endroit le plus sûr, comme si c'était des criminels de la pire espèce. Et là, on se dit, mais à ce moment-là, face à toute cette injustice, toute cette haine, Paul et Silas, ils auraient pu dire, pauvre nous. Seigneur, nous n'annoncions que le bien, que ton salut. Alors, pauvre nous, délivre-nous, ceci est injuste, nous ne méritons pas d'être ici, nous n'avons pas besoin de ceci, Seigneur, nous pourrions faire tant de bien en annonçant ta parole, pourquoi est-ce que tu nous as mis ici? Et à leur place, et moi je parle pour moi-même, à leur place, moi j'aurais eu cette réflexion. J'aurais dit, mais Seigneur, pourquoi cela? Mais Seigneur, je ne mérite pas ceci. C'est là, verset 25, c'est tellement... Ça me reprend à chaque fois. Ça apporte de la conviction dans mon cœur. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas pleuraient. Mais non. Alors qu'ils avaient de quoi pleurer, n'est-ce pas? Tous les coups qu'ils ont reçus, ça saignait sûrement. Ils avaient froid, sûrement. Ils avaient faim, ils avaient soif. Et là, Paul et Silas, au lieu de pleurer sur leur sort, ils priaient. Et puis, en plus de cela, ils chantaient. Et on se dit, mais ils chantaient dans la prison. Ils priaient là. Et ils ne chantaient pas n'importe quoi. Ils chantaient non pas le malheur sur leurs ennemis. Non! Ils chantaient les louanges de Dieu. Et regardez, les prisonniers les entendaient. Imaginez-vous les autres prisonniers qui étaient là. Imaginez-vous comment ils ont dû être bouleversés, surpris, en entendant Paul et Silas chanter. Ils ont dû se dire, mais ces gens-là, ils ne sont pas bien. Ben, qu'est-ce qu'ils ont bu? Qu'est-ce qu'ils ont fumé, eux? Ben, ils sont pas bien. Ben, ils devraient être comme nous, en disant « c'est injuste, je ne mérite pas d'être ici, on est allé trop loin ». Mais ils chantent. Non, mais c'est pas possible. S'il y a un endroit où on ne peut pas chanter, c'est bien en prison. Et pourtant, Paul et Silas chantent les louanges de Dieu à cet endroit. Et je me dis, moi-même, je n'ai jamais connu les injustices que Paul et Silas ont connues. On ne m'a jamais frappé parce que je suis chrétien. On ne m'a jamais fait ces choses que Paul et Silas ont subies. Et pourtant, bien souvent, je n'ai pas la réaction qu'avaient Paul et Silas. Bien souvent, effectivement, si je suis honnête, j'ai cette interrogation, mais Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, je ne mérite pas ceci. Mais Seigneur, tu ne vois pas ce que j'aurais pu faire si c'est pour toi, tout ce que j'aurais pu accomplir pour toi, si je n'avais pas cet obstacle, si je n'avais pas cette épreuve dans ma vie. Et à ce moment-là, j'oublie l'exemple de Paul et Silas, j'oublie l'exhortation de Psaume 150. Et si nous poursuivons notre lecture, nous savons ce qui est arrivé. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors, ce n'est pas les chants de Paul et Silas, ce n'est pas parce qu'ils chantaient tellement fort ou tellement faux que ce tremblement de terre est arrivé. Non, c'est la puissance de Dieu qui est intervenue. Et dans la suite, nous voyons le geôlier croyant que tout le monde est sorti, voulait se tuer parce qu'il a dit de toutes les façons, « Moi, je suis un homme mort, ma vie dépend de ces hommes et s'ils s'en sont fuis, ben, on va s'en prendre à moi, alors mieux vaut que je prenne ma propre vie. » Mais Paul le rassure en disant, « Nous sommes tous là. » Tous ces prisonniers qui avaient entendu Paul et Silas prier, ils ont dû se dire, ben, « Ces hommes sont différents. » Qui a jamais entendu dire que les hommes en prison ont chanté les louanges de Dieu? Personne. Ils n'avaient jamais entendu ça. Ils étaient tellement frappés par cela que ces autres prisonniers sont restés sur place. Et ce geôlier, ainsi que toute sa famille, sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Et tout cela parce que Paul et Silas ont chanté et ont loué Dieu, même en prison. Mais on va dire, oui, mais c'était Paul et Silas. Et ça, c'est normal. Paul, il était un super chrétien. Paul, il était différent de nous. Paul, il avait des choses en plus. Silas était avec lui, avait reçu son enseignement et tout. Eux, ils sont dans une catégorie à part. Et c'est faux. Paul n'a rien que nous n'avons pas. Paul ne possédait rien que nous ne pouvons pas posséder aujourd'hui. Nous avons la parole de Dieu entre les mains. Nous avons l'enseignement. Nous avons l'Esprit en nous, tout comme Paul avait le Saint-Esprit en lui. Et si Dieu a pu rendre Paul et Silas capables, dans des pires circonstances, de louer Dieu, Dieu est capable de le faire pour nous aujourd'hui. Paul et Silas ne sont pas dans une catégorie à part. Tout comme Jacques va dire, Élie, lui dans l'Ancien Testament, n'était pas dans une catégorie à part. Il était un homme tout à fait comme nous, dit Jacques. Et pourtant, il a prié, il n'a pas plu pendant 3 ans. Il a prié de nouveau, il a plu. Mais Élie était exactement comme nous. Et Paul, Silas, Jacques, Pierre, tous ces hommes, et aussi les femmes de foi, sont comme nous. Et si Dieu les a aidés, est-ce que nous sommes moins Est-ce que Dieu nous aime moins pour ne pas nous donner la capacité de le louer comme eux, ils ont loué Dieu? Non, Dieu nous aime tout autant. Et Dieu va nous rendre capables tout comme il les a rendus capables. Et cet exemple de Paul et Silas, dans une situation où le monde va dire « ce n'est pas possible », ça va contre toute logique. Là, Paul et Silas seraient excusables, on comprendrait, si ils ne louaient pas Dieu. Ils pourraient se justifier en disant « nous sommes en prison, là on ne peut pas ». Et aujourd'hui, parfois, nous avons cette réflexion « je ne peux pas louer Dieu parce que… » Et on essaie de trouver des excuses, on essaie de nous justifier, nous donner bonne conscience… Alors que le témoignage de la Bible, c'est nous n'avons aucune excuse. Rien ne justifie un manque de louange dans notre vie. Alors nous retournons dans le psaume 150 parce que dans ce verset 2, oui, louez-le pour ses hauts faits. Lorsque je lis ce verset, j'associe cela à la puissance de Dieu qui se manifeste de manière éclatante de temps en temps. Vous savez, les hauts faits pour le peuple d'Israël, c'était la sortie d'Égypte. C'était la traversée de la mer Rouge. C'était la traversée du Jourdain. C'était les murailles de Jéricho. C'était ces grands triomphes comme cela, ces hauts faits de Dieu sur lesquels on revenait bien souvent, et même dans les psaumes, on rappelle très souvent cela. Et nous, pour pouvoir louer Dieu, il nous faut nous souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et si nous avons du mal à nous souvenir, entre guillemets, de ces hauts faits de Dieu dans notre vie, il y a un problème. C'est parce que soit je ne fais pas confiance à Dieu, soit, dans ma vie, je me suis laissé prendre et un peu obsédé, pris avec toutes les choses de la vie, que je laisse ce que Dieu fait de côté. Et ici, louez-le, donc louez Dieu, l'Éternel, pour ses hauts faits, mais aussi louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Et l'immensité de sa grandeur ici, c'est sa puissance qui se manifeste dans les petites choses de tous les jours. Le fait que nous avons pu nous lever du lit ce matin avec plus ou moins du mal. Pour certains, c'est avec plus de mal, pour d'autres, c'est avec moins de mal. Et ici, Dieu, par le psalmiste, dit « cette grandeur se manifeste partout ». À tout moment, pas simplement dans les grandes choses, dans les grandes délivrances, lorsqu'il pourvoit vraiment de manière miraculeuse, mais au jour le jour. Le fait que nous avons un travail, nous avons la vie, nous avons la santé, nous avons de quoi manger. Le fait que nous pouvons témoigner, le fait que nous avons la parole, toutes les petites choses, ce qui à nos yeux semble comme de petites choses dans notre vie, c'est la grandeur et la puissance de Dieu qui fait que tout cela existe. Si Dieu voulait, je n'existerais pas. J'existe simplement parce que Dieu m'a créé et que Dieu me donne la vie. Et lorsque j'ai cette perspective, que ma vie est entre les mains de Dieu, que rien ne m'arrive par hasard, et que même les ce qui, selon le monde, sont les pires circonstances, je peux louer Dieu. Je peux dire, Seigneur, tu es ici, tu m'accompagnes. Tu n'es pas distant pour me laisser me débattre tout seul, essayer de surmonter cette épreuve par moi-même, essayer de trouver une solution par moi-même. Mais non, Seigneur, tu es là. Et sa grandeur nous aide, sa puissance nous aide, dans les choses de tous les jours. Et lorsque je m'en souviens, là, je peux louer Dieu. Dieu s'intéresse aux moindres détails de notre vie. Dieu est là. Et lorsque je me lève, lorsque je me prépare pour la journée, lorsque je fais un peu ma routine de tous les jours, bah Dieu est là. Et Dieu nous permet de faire ces choses. Et Dieu nous accompagne à travers chaque instant de notre jour. Et lorsque nous sommes dans cette perspective, la louange devrait être quelque chose de naturel. La louange devrait être quelque chose de spontané. Lorsque nous nous souvenons qu'avec Dieu, il n'y a pas le hasard, nous pouvons vivre notre vie différemment de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans leur esprit, on est là effectivement par le hasard, que si je fais tel ou tel choix, ben peu importe, parce que de toutes les façons, on vit, on meurt, et après c'est tout. Cette vie n'a pas de sens pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour l'enfant de Dieu, la personne qui est sauvée par grâce, tout a un sens parce que Dieu contrôle toutes choses. Et comme dit ce verset, l'immensité de sa grandeur. Il a tout créé. Et rien n'échappe à sa puissance. Et bien sûr, des choses qui nous semblent difficiles, des choses qui sont très dures, arrivent dans la vie. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu est impuissant. Ce n'est pas comme si Dieu ne savait pas que cela arriverait. Non, Dieu le savait. Et Dieu accorde sa grâce, sa puissance pour surmonter cela. Paul, comme nous le savons bien, 2e épître aux Corinthiens, pour ne pas que Paul tombe dans l'orgueil, Dieu permet cet écharpe dans la chair. Paul demande à 3 reprises que Dieu l'enlève. Dieu dit, ma grâce te suffit. Et Paul a fini par accepter cela. Et il a compris sans cet écharpe dans la chair, il serait tombé dans l'orgueil. Et cet écharpe dans la chair, aussi douloureux que cela pouvait être, Dieu s'en servait dans sa vie et Paul a pu louer Dieu pour cela. Et nous voyons ici, oui, cette louange envers Dieu peut être, devrait être dans toute situation dans notre vie. Il n'y a aucune situation où, de manière légitime, l'enfant de Dieu peut dire « je ne peux pas louer Dieu ». Impossible. Nous pouvons essayer de nous justifier, nous donner bonne conscience, mais la parole de Dieu est claire. Toute situation, et bien sûr que la chose soit claire, sauf lorsque nous sommes dans le péché. Mais en dehors de cela, toute situation, nous pouvons louer Dieu. Nous devons louer Dieu. Les versets 3, 4 et 5, oui, nous voyons qu'à tout moment, il faut louer Dieu, mais les versets 3, 4 et 5 nous montrent, et c'est aussi le témoignage de toute la Bible, qu'une des meilleures façons de cela, c'est en fait la musique, le chant. Il y a ces instruments qui sont ici, la trompette, le luth, la harpe, les tambourins, les instruments à cordes, on parle même de danse, le chalumeau, les cymbales. Et lorsque nous voyons ici la diversité de façons, moi je loue Dieu pour cela justement. Qu'est-ce que je suis content que ce Dieu si grand, si merveilleux, n'a pas décidé qu'une seule façon de louer Dieu était suffisante. Ici à l'église, on a le piano. Aussi, on se sert de la guitare. On a déjà eu la trompette quand le frère Nickerbocker est passé. On a déjà eu des violons quand les gens qui ont joué sont passés par ici. Il y a diverses façons de louer. Par des instruments différents. Un instrument n'est pas meilleur ou pire qu'un autre aux yeux de Dieu. Et puis, tout simplement, avec notre voix, comme la chorale a fait tout à l'heure. La voix, cet instrument, entre guillemets, divin, que Dieu a donné à chacun d'entre nous, bon, cet instrument est un peu plus fin chez les uns que chez les autres, mais Dieu nous donne à tous soit la capacité effectivement de jouer à l'instrument, ou bien de chanter, de faire une louange envers Dieu à travers le chant. Et cette diversité dont ce psaume parle, c'est quelque chose de tellement beau. Au lieu de dire, voici la façon qu'il faut le faire et toutes les autres façons sont à exclure, sont mauvaises. Non, Dieu dit, je veux que cette louange vienne de façon différente. Et ici, en France, on va le faire d'une façon. Ici, à Vernon, on va le faire d'une façon. Mais dans d'autres églises, ils vont faire d'autres façons. En Asie, les églises vont faire d'une autre façon. Souvent, les églises doivent se réunir en secret. Leur louange sera différente. En Afrique, leur louange sera différente. En Amérique du Sud, ce sera différent. Est-ce qu'une louange est meilleure que l'autre? Non. Tant que, bien sûr, c'est encadré par la Bible. Mais cette diversité est voulue de Dieu, parce que Dieu nous a créés tous différemment. Dieu nous a créés tous individuellement, et il veut que cette louange aussi soit individuelle, tout comme elle soit collective. Et il ne s'agit pas de se comparer les uns les autres en disant « je ne peux pas louer aussi bien » ou « regardez, tel ou tel ne loue pas aussi bien que un tel ou tel ». Non, Dieu veut qu'on loue avec le chant, avec les instruments. Et puis l'Épître aux Éphésiens, nous n'avons pas le temps ce matin de voir cela, mais l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, on parle de s'instruire les uns les autres par les chants, par les psaumes, par les hymnes. L'Épître aux Colossiens également reprend cette idée. Et cela fait que le chant, oui, collectif, mais aussi chez vous, doit être une partie intégrante de notre vie. C'était en 2003, au printemps, je suis tombé bien malade au point où, d'après ce qu'on me dit, j'ai failli mourir. Bon, Dieu m'a préservé, je le loue pour cela. J'étais à l'hôpital aux soins intensifs pendant presque une semaine. Et mes parents ont dit au médecin, vers la fin de cette période, « Ah, maintenant, nous savons que notre fils va mieux. » Ils ont dit, « Nous savons, là, il n'y a aucun doute, notre fils va mieux. » Comment est-ce qu'ils l'ont su? Parce que je me remettais à chanter. Parce que jusque-là, pendant cette période que j'étais aux soins intensifs, je ne chantais pas. Je n'avais pas vraiment la capacité et je n'avais pas du tout envie. Du coup, je commençais à aller mieux, je commençais à chanter de nouveau. Et mes parents ont dit, ah voilà, maintenant nous retrouvons notre fils, maintenant on le reconnaît. Je me souviens, je dérangeais, j'embêtais mes frères parce que je chantais de trop. Et ils disaient, mais Robert, tu ne peux pas arrêter de chanter et tout. Et je disais non. Mais voilà, le chant, ça va venir plus facilement pour les uns que pour les autres. Mais le chant, que ce soit chez nous, que ce soit à l'église, doit être partie intégrante de notre vie. Nous devions participer avec joie à cela. Et pour terminer, verset 6 de ce passage, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Comme si on avait besoin de cette précision, mais qu'est-ce que je suis content, je souris un peu que Dieu nous a donné ceci. Est-ce que vous respirez? Mais oui. Alors, quelle est votre obligation devant Dieu alors? De louer Dieu. Si vous respirez, vous devez louer Dieu. Et la seule raison pour ne pas louer Dieu, c'est que vous arrêtez de respirer. Alors, arrêtez de louer Dieu, d'accord, mais ça veut dire aussi qu'il vous faut arrêter de respirer. Alors, si vous pouvez, d'accord, pas de problème. Je ne le recommande pas, je ne le conseille pas. Alors, si vous respirez, si moi je respire, j'ai l'obligation de louer Dieu. Mais je préfère mettre ça dans d'autres termes. Si je respire, et même parce que je respire, j'ai le privilège de louer ce Dieu créateur. Que tout ce qui respire, ça veut dire moi. Ça veut dire vous. Ça veut dire même les animaux. Les animaux respirent. Et Dieu n'a pas besoin de leur rappeler de le louer. Nous avons besoin de ce rappel. Et parce que nous respirons, et parce que cette respiration vient de Dieu, nous avons le privilège. Oui, on va parler d'obligation, mais il faut le voir comme un privilège de louer Dieu. Et de se poser la question, est-ce que je suis en train, par moment, dans ma vie, de refuser de louer Dieu, de dire, ah, là, je ne peux pas, je voudrais, mais je ne peux pas. Cette réflexion ne vient pas de la Bible. Cette réflexion ne vient pas de Dieu. La réflexion qui vient de Dieu, c'est dans cette situation, je fais le choix. Il sera difficile peut-être. Les autres ne le comprendront pas, peut-être. Mais je fais le choix de louer Dieu. Et je suis confiant que Dieu agira, qu'il est en train d'agir. Parce que si je refuse de louer Dieu, peu importe la situation, je suis en train de refuser d'obéir à sa parole. Et à ce moment-là, je suis dans une situation très grave. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes ensemble, autour de la parole de Dieu, entre nous pour nous exhorter, pour nous encourager, je dirais qu'il est facile pour nous de louer Dieu. Oui, quand on est ensemble, il y a cet effet de groupe, dans le bon sens, louange envers Dieu. Comme j'en parlais au début du message, en 98, tout le monde ensemble, on était un peu entraînés, même les gens qui ne s'intéressaient pas trop au foot. Quand on gagnait la Coupe du Monde, c'est tout le monde ensemble. Mais aujourd'hui, puisque l'équipe de France joue tellement mal, parce qu'il y a tellement de problèmes, qui les soutient? Du coup, aujourd'hui, tous ensemble, oui, on loue le Seigneur, mais demain, quand on sera chez nous, même cet après-midi, ce soir, quand on sera tout seul avec ses pensées devant Dieu, est-ce que là, vous allez louer Dieu? Cette semaine, quand vous serez confronté à une situation, quelqu'un qui est désagréable, quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui est injuste, quand vous êtes face à une situation qui vous paraît tellement injuste, est-ce que vous allez prendre à ce moment-là la décision de louer Dieu? Et je dois me poser la même question. Est-ce que cette louange sera toujours sur ma bouche? J'aimerais qu'elle soit. Je veux prendre la décision aujourd'hui qu'elle soit. Et ça doit être l'attitude de chacun de nous. Mais c'est un choix qui doit être renouvelé tous les jours. Et parce que je fais partie de ceux qui respirent, l'obéissance envers Dieu m'oblige, me pousse à le louer. J'ai ce privilège de le louer, de le remercier. Et ça, dans n'importe quelle situation, face à n'importe qui, la personne la plus agréable, tout comme la personne la plus désagréable, je peux, par la grâce de Dieu, le louer. Alors, quel est le choix que nous ferons aujourd'hui? Bien sûr, nous savons le choix que Dieu voudrait que nous fassions. Nous savons le choix qui le glorifiera. Mais réellement, dans notre vie, quel sera le choix? Je prie pour vous, pour moi-même, que ce soit le bon choix de toujours louer Dieu. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous élevons notre voix vers toi et nous reconnaissons que tu es ce grand Dieu, au-dessus de tout, le Tout-Puissant, qui n'est jamais surpris, qui n'est jamais pris au dépourvu. Tu contrôles toutes choses, tu contrôles notre vie, tu agis, tu es puissant. Nous le reconnaissons et nous t'exaltons, nous te louons, nous disons combien tu es grand et Nous nous confions en toi. Nous voulons à chaque instant de notre vie dire tes louanges, manifester que tu es celui qui a le contrôle sur notre vie. Seigneur, aide-nous devant des situations difficiles de la vie. Secours-nous, nous sommes impuissants par nous-mêmes. Et Seigneur, que notre vie puisse rayonner de louanges, que ce soit évident pour tous ceux qui nous entourent et que tu puisses recevoir tout l'honneur et toute la gloire pour cela. C'est en ton nom que nous prions. Amen.